Mes frères bien-aimés, heureusement que les femmes existaient au temps de Jésus pour mettre un peu d'ambiance dans ces enseignements qui étaient loin d'être ennuyants, mais qui tout de même duraient des heures. Et aujourd'hui, la femme de l'Évangile, nous la remercions également pour deux raisons supplémentaires. Premièrement, parce qu'elle a donné le coup d'envoi au culte marial public. Elle est celle qui, pour la première fois, a chanté au grand jour les mérites de la Sainte Vierge. Aussi, c'est en partie grâce à elle si nous fêtons ensemble l'Assomption de Marie. Et deuxièmement, nous lui sommes reconnaissants parce que son cri nous a valu une réponse capitale du Christ. Remarquez que ce dernier ne réfute pas ce qui a été dit, mais il l'affine seulement. Quand la femme s'exclame « Heureuse celle qui t'a porté et nourri », Jésus précise en écho « Elle est heureuse parce qu'elle est ma mère », c'est clair. Mais plus profondément, si elle est heureuse, c'est parce qu'elle a écouté la parole de Dieu qu'elle l'a gardée jusqu'à l'enfanter en elle. Aussi, frère bien-aimé, si nous voulons atteindre notre bonheur, il faut suivre le chemin que notre mère nous a tracé, il faut que nous écoutions et que nous gardions la parole de Dieu en nous. Et au fur et à mesure que nous la scruterons, elle dégagera des saveurs insoupçonnées qui travailleront à notre félicité. Aussi, c'est ce que nous allons faire. Toutes les paroles que nous venons d'entendre, nous allons les faire retentir de nouveau, mais en leur donnant une signification nouvelle. En effet, si l'Église nous les dispense alors que nous fêtons la Vierge Marie, c'est qu'il faut les rattacher à elle. Et ce faisant, vous verrez, nous allons découvrir de nouvelles vérités qui vont faire notre joie. Dans la première lecture, nous avons affaire au roi David et à l'installation de l'Arche de l'Alliance. Or, l'Ancien Testament, vous le savez, est une préfiguration du Nouveau Testament. Pour le dire autrement, ce qui est décrit est l'annonce de ce qui va advenir plus tard. Ce matin, nous ne sommes donc pas en présence du roi David, mais de celui qu'il préfigure, le Christ qui est le roi des rois. De même, nous ne sommes pas en présence de l'Arche de l'Alliance, dans laquelle se trouvaient les 10 commandements, mais de celle qui par excellence contient la parole de Dieu, la Vierge Marie. Tout prend alors un autre sens, et la première lecture devient la description exacte de ce qui se passe en ce moment au ciel. Écoutez donc. En ces jours-là, le Christ rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter la Sainte Vierge à l'emplacement préparé pour elle. Il réunit les fils d'Aaron et les Lévites. Les Lévites transportèrent Marie sur leurs épaules. Le Christ dit aux Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres, avec leurs instruments, harpe, cithare, cymbales, pour les faire retentir avec force en signe de joie. Ils amenèrent donc la Mère de Dieu et l'installèrent au milieu de la tente que Jésus avait dressée pour elle. Puis on présenta devant Dieu des holocaustes et les sacrifices de paix, et quand Jésus eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom de son Père. N'est-ce pas magnifique ? Dans le psaume rebelote, la demeure que Dieu s'est choisie sur terre, nous le savons bien, ce n'est pas le temple de Jérusalem, mais c'est les entrailles de Marie. Aussi le psalmiste chante en réalité ceci, « Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, car tu as fait choix de Marie, elle est le séjour que tu désires, voilà mon repos à tout jamais, as-tu dit, voilà le séjour que j'ai désiré. » Enfin, dans la deuxième lecture, nous avons le bouquet final, puisque nous avons là carrément une nouvelle vérité théologique. Qui est cet être dont parle saint Paul et qui doit encore ressusciter pour engloutir définitivement la mort? Je vous rappelle qu'il écrit « Après la résurrection du Christ, ce ne peut donc être ce dernier ». Eh bien, vous l'avez deviné, c'est encore la star du jour qui gagne tous les prix discernés, Marie. Écoutons de nouveau l'évangélisateur des nations. Quand cet être mortel, la Sainte Vierge, aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? Et oui, mes frères, c'est réellement quand la vie de Marie s'est terminée, quand elle est montée au ciel, que Satan a été entièrement vaincu. Car alors, il n'y a plus eu seulement Jésus, l'homme-Dieu, qui a vécu une existence parfaite, il y a eu aussi une créature qui, du tout début jusqu'à la toute fin de son existence, n'a vécu que pour l'amour. Là, la défaite de Satan a été totale. Même sur une créature, il n'a pas réussi à avoir d'emprise, ne serait-ce qu'une seule seconde. Oui, c'est vraiment depuis que Marie a franchi la porte du paradis que celui-ci nous est de nouveau et définitivement ouvert. J'espère, frère bien-aimé, que cette nouvelle manière de lire les lectures vous a comblé de joie, tout simplement parce que notre maman a été ainsi mise à l'honneur. Quel fils n'est pas heureux quand sa mère est couverte de louanges? Ce doit être pareil pour nous avec notre mère du ciel. Arrêtons d'avoir envers elle une relation théologique dans laquelle nous pesons chaque prière ou chaque regard que nous lui adressons pour examiner si nous n'enlevons rien à la gloire de son fils. Mais non, la joie de l'un fait la joie de l'autre, la gloire de l'un fait la gloire de l'autre. N'oublions pas que ce sont des champions d'humilité. Vivons donc avec notre Mère Céleste une relation toute filiale, toute simple, toute aimante, où les déclarations d'amour sont monnaie courante. Amen.